Europe 1.
Europe 1. 15h-16h, historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
Nous sommes au cœur de l'été de l'an -512, à la fin du 6e siècle avant notre ère, pendant les 67e Jeux organisés au sanctuaire d'Olympie, au cœur d'un illustre stade dominé par le temple de Zeus, autour duquel poussent des oliviers sacrés ramenés du pays des Hyperboréens par Héraclès, qui s'y était égaré, dit-on, en poursuivant la biche de Cérynie. Les rameaux de ces arbres avec lesquels sont confectionnées les couronnes des vainqueurs sont les trophées les plus prisés du monde grec. Le célébrissime lutteur Milon de Crotone, reconnaissable de loin à son immense silhouette, s'avance devant les 40 000 spectateurs venus l'encourager au combat. L'homme de 40 ans, encore une fois vainqueur à la lutte, décide de se présenter aussi à l'épreuve de Pancrace, sorte de combat libre extrêmement violent où, mis à part les morsures, tous les coups sont permis. Peu habitué à cette épreuve, Milon est en quête d'une seconde couronne afin de rentrer à Crotone, plus que jamais auréolé de gloire, pour ce qu'il sait être la dernière Olympia de son irréprochable carrière. Le voici qui s'avance sur le carré en terre battue, le corps huilé entièrement nu. Sa détermination se lit dans ses yeux qui pourraient jeter la foudre. Chacun observe cet homme d'allure animale, avec sa longue barbe poivre et sel, ses mains et ses cuisses massives, la nuque si épaisse que l'on croirait voir l'encolure d'un taureau. Face à ce véritable monstre, son adversaire ne fait pas le poids et le public se demande bien pourquoi il n'a pas encore déclaré forfait. Pourtant, le jeune homme, un certain Timasethéos, un athlète inconnu de Delphes, semble déterminé à se battre. Il a observé Milon lors de la précédente Olympia il y a 4 ans. Il connaît son style de combat. Et puis, il n'a pas peur des monstres. Comme tous les Grecs, il connaît bien ses mythes. Il sait que c'est par le Pancrace qu'Hercule a terrassé le lion de Némée ou que Thésée est parvenu à vaincre le Minotaure. Le combat commence. Milon, qui n'entend faire qu'une bouchée du gringalet, se rue sur son adversaire qui, d'un pas presque dansant, l'esquive. Timasethéos sait qu'à la seconde où ce géant parviendra à le saisir, il le plaquera au sol et lui tordra le cou. Alors, le jeune athlète refuse le corps à corps et, profitant de la lenteur de son adversaire, sautille par petits pas autour de lui et, comme un taon sur la croupe d'un bœuf, épuise doucement Milon par une succession de coups bien placés. Ainsi, la carrière du champion se termine-t-elle sur un abandon du combat. Sa vieille réputation d'invincibilité vient de se briser en public. Milon s'en repart à Crotone humilié, avec des bleus sur tout le corps et le visage, et avec dans la bouche un goût nouveau, amer, qu'il croit être du sang, mais qui en réalité n'est que celui de la défaite. À partir de ce jour, pour Milon de Crotone, c'est le début de la fin d'un légendaire athlète de l'Antiquité grecque, né à une période où le sport est alors en pleine mutation. Milon voit le jour en -553 avant notre ère dans une colonie grecque du sud de la péninsule italienne dans l'actuelle Calabre. Crotone est une cité prospère qui, perchée sur son promontoire de pierre ocre, s'avance comme un balcon sur la mer Ionienne. Une mer d'un bleu si pur, si limpide qu'on croirait deviner les reflets argentés des nombreux espadons et thons qui y nagent. Quant à la terre, elle est chaude et fertile. Les agrumes qui y poussent sont gorgés de soleil, les piments y rougissent avant l'été, les lauriers et les acacias sont hauts comme des arbres. De même, les hommes qui ont la chance d'y être nés sont d'excellente constitution et, comme tout ce qui vit aux alentours, ils respirent la santé. En l'an 540, Milon a 12 ans. Issu d'une riche famille de Crotone, le voilà qu'il prend pour la première fois le chemin de la palestre, cette école où il doit être formé à la vie de citoyen soldat. Car à cette époque, l'éthique sportive est intimement liée à l'idéologie civique et martiale. Toutefois, depuis peu, les choses sont en train de changer. Les sports de combat, d'agilité ou de vitesse, hérités de la formation à la guerre, sont en train de se constituer en disciplines propres et autonomes. Les cités plutôt que d'entrer en conflit, cherche d'autres formes d'affrontement. L'athlétisme et toutes ses formes dérivées sont en plein essor en ce 6e siècle avant notre ère et c'est une véritable révolution. Passé les hautes colonnades de la palestre et la statue du jeune Hermès, Milan découvre tout un ensemble d'installations sportives au cœur d'une cour en terre battue avec un grand bassin d'agrément où viennent se rafraîchir les adolescents après leurs entraînements. Crotone, cette cité opulente où il fait si bon vivre, constitue alors le plus grand vivier d'athlètes du monde grec. Milon observe, subjugué, les lanceurs de disques et de javelots. Mais ce sont surtout ces deux adolescents combattant à main nue qui le captivent. Leur force semble égale jusqu'à ce que l'un des lutteurs saisisse la jambe de son adversaire avant de le faire chuter au sol. Les deux corps nus se roulent dans la poussière pour n'en faire plus qu'un. Vaincu par une clé de bras, l'un des deux athlètes fait un signe de reddition et le vainqueur lâche sa prise. Les semaines, les mois passent et Milon reste obnubilé par la lutte. Seul sport de combat autorisé à la palestre, la boxe ou le pancras étant bien trop dangereux pour des enfants. Remarqué par son entraîneur, il commence à fréquenter les compétitions. Car à cette époque, les concours sportifs sont en train de devenir LA grande obsession du monde grec. Alors oui, certes, des jeux existaient par le passé. Mais dorénavant, c'est un véritable système qui voit le jour, avec son calendrier propre, ses échéances et cette succession de rencontres organisées entre les principales cités grecques. Chaque athlète adulte espère alors être un jour coiffé de l'un des quatre plus prestigieux trophées des compétitions principales de l'époque. La couronne de laurier de Delphes, la couronne de céleri sauvage de Némée, la couronne en aiguille de pin du sanctuaire d'Isthme et bien sûr, la plus illustre de toutes, les rameaux d'olivier d'Olympie. Ces récompenses hantent les jours et les nuits des sportifs. Si autrefois, concourir était un honneur en soi, il n'en va plus de même à l'époque de Milon où la figure virile de l'athlète compétiteur est plus que jamais portée en modèle. C'est désormais la victoire individuelle qui importe, non sans qu'une partie de l'élite intellectuelle regarde d'un assez mauvais œil cet engouement nouveau pour le culte du corps et de l'exploit, sans parvenir toutefois à empêcher ce véritable phénomène de société. Et c'est ainsi qu'à 14 ans, à l'été -538, Milon embarque à bord des navires qui emportent avec eux la délégation des athlètes de Crotone en route vers le golfe de Corinthe pour les Jeux pythiques de Delphes. Sur place, au cœur d'un grand stade, au milieu d'un bois de pin accolé au sanctuaire d'Apollon, porté par les victoires nombreuses de ses pairs, Milon se laisse impressionner ni par la foule immense, ni par ses adversaires athéniens, corinthiens ou spartiates, qu'il renverse les uns après les autres, devenant ainsi le champion de lutte de la catégorie junior. 2 ans plus tard, en l'an -536, se tiennent déjà les 60e Jeux Olympiques. S'ils se déroulent, comme aujourd'hui, tous les 4 ans, depuis presque 2 siècles, dans le stade qui juxtapose le temple de Zeus à l'ouest du Péloponnèse, ils prennent là une ampleur nouvelle en devenant le plus grand rendez-vous sportif du monde grec. Un rendez-vous au cours duquel le lutteur de Crotone décroche à nouveau une éclatante victoire. Mais à 18 ans, devenu citoyen à part entière, Milon n'a plus accès à la palestre de Crotone. Il fréquente alors quotidiennement son gymnase qui à ce jour lui demeurait fermé. Là-bas, il observe les coureurs adulés s'y entraîner en poursuivant des lièvres ou des chevaux. Mais Milon, lui, n'est guère intéressé par la vitesse. Chaque matin, à l'entraînement, toujours en quête de puissance, il s'attelle à un char qu'il entreprend de tirer à l'égal d'un bœuf. Un jour, il a l'idée de soulever un jeune veau sur ses épaules comme un pâtre grec le ferait d'un mouton, avant de marcher ainsi tout autour du gymnase. Les mois passent. De semaine en semaine, Milon s'est considérablement épaissi, tout comme l'animal qu'il continue de porter, devenu un taurillon tout aussi massif que lui. L'été pour lequel il s'est tant entraîné arrive enfin, et le voici de retour à Delphes pour les Jeux pythiques de l'an -534. Milon concourt dorénavant dans la catégorie adulte et décroche la prestigieuse couronne de laurier. 2 ans plus tard, le lutteur de 20 ans se coiffe des illustres rameaux d'olivier. Si jeune et déjà célébré, peut-être ne prend-il pas la mesure de ses exploits, mais il est certain qu'il pressent le brillant avenir qui vient de s'ouvrir à lui. en moins 532, revenu à Crotone, fraîchement couronné de sa seconde Olympia, Milon reprend aussitôt le chemin du gymnase. La même année, un étrange personnage débarque pour la première fois en terre italienne. L'homme, de noble allure, est âgé d'une cinquantaine d'années. Il porte une barbe taillée en pointe et autour de la tête un linge noué en turban. Ce maître de sagesse se nomme Pythagore. Philosophe, voyageur et mystique, il propose une pensée à la croisée des champs politiques, scientifiques et religieux. À peine arrivé à Crotone, il se rend au gymnase, sûr d'y rencontrer toute la jeune élite locale. Sur place, d'une voix à la fois éloquente et douce, Pythagore parle de ses valeurs de modération, de non-violence et de végétarisme, un discours qui ne devrait pas trop parler à Milon, dont l'appétit de victoire égale celui qu'il a développé pour la viande. Et pourtant, le voilà conquis. Avec Milon dans ses rangs, Pythagore fait une recrue de choix dans cette confrérie qu'il est venu fonder ici. Pour le remercier de sa fidélité, ce gourou qui ne dit pas son nom ira même jusqu'à lui offrir en mariage sa propre fille Mia quelques années plus tard, à l'approche des 25 ans de Milon. Plus obsédé que jamais par sa carrière, le champion de Crotone continue de voyager dans le monde grec et d'écumer les stades. Pendant près d'un quart de siècle, il domine l'épreuve de la lutte partout où il se rend. Sa maison à Crotone, que l'on imagine spacieuse et richement décorée, doit probablement contenir une salle d'apparat où se trouvent ses principaux trophées. 6 couronnes d'Olympie, 6 couronnes de Delphes, 9 couronnes d'Isthme et 10 couronnes de Némée. Un palmarès unique pour l'époque. Une autre pièce importante est la salle à manger. Après son entraînement, Milon s'attable comme Héraclès, son héros, pour des repas de démesure. Adieu les figues fraîches et le fromage de brebis, ce repas frugal que privilégiaient jadis les athlètes. Milon ingurgite des litres et des litres de vin, engloutit des quantités monstrueuses de pain de froment, de viande bouillie, de museau, de jambon, de pieds de porc et de volaille. À sa masse musculaire déjà énorme, s'ajoute à présent une épaisse couche graisseuse. Le voilà devenu si massif que plus personne ne veut l'affronter. Et depuis peu, dans les compétitions, Milon s'habitue au forfait récurrent de ses adversaires que les Grecs appellent la victoire sans poussière. Alors, dans les stades du Péloponnèse, Milon cherche d'autres formes de gloire. Un jour, lors d'une Olympia, Milon le géant s'empare d'un jeune taureau et le hisse sur ses épaules. Après avoir pavoisé fièrement devant tout le public, il assomme la bête à la seule force de ses poings, puis se juge sur les marches de l'autel de Zeus, où il dévore lentement, mais sûrement, l'animal tout entier. Le public n'en revient pas. Milon comprend-il toutefois que leur fascination se double d'un certain mépris? Lui qui aimerait et croit être admiré à l'égal de son modèle Héraclès, ne comprend-il pas qu'il est aussi, pour tous ces Grecs qui abordent la démesure, une fascinante et terrifiante bête de foire? En 510 avant notre ère, la guerre est déclarée contre la cité de Sybaris, voisine rivale de Crotone depuis toujours. Le champion de la cité reçoit l'honneur de mener au combat une armée de 100 000 citoyens soldats. Grimé en Héraclès, Milon avance fièrement en première ligne vers la bataille. Sous sa langue, il susote une petite pierre brillante de celle que l'on trouve dans le ventricule des vieux coqs. C'est grâce à ce talisman, pense-t-il, qu'il est toujours sorti victorieux de ses combats. Dès lors, en apercevant l'armée sybarite, trois fois plus nombreuse que celle de sa cité, Milon de Crotone ne faiblit pas. Il sait qu'à lui tout seul, il est une arme de poids. Et il voit juste. En face, les fantassins ennemis aperçoivent, au-devant d'une forêt de lances étincelantes, de casques et de boucliers circulaires, une immense silhouette coiffée de multiples trophées, vêtue d'une peau de lion et portant une immense massue en bois d'olivier. Milon a beau n'être qu'un symbole, une sorte d'étendard, l'effet est réussi. Le trouble s'installe dans les rangs et la peur gagne les phalanges sybarites qui, à la simple vue de ce géant herculéen, battent en retraite. L'armée crotoniate se lance à leur poursuite et taille en pièces les malheureux. Après quoi vient le tour des civils. La cité tout entière est rasée et Sybaris ne devient plus qu'un lointain souvenir. Milon, revenu triomphant à Crotone, peut admirer son glorieux parcours, lui qui, depuis ses 14 ans, a cheminé à travers tout le monde grec et qui, à l'approche de ses 40 ans, continue à faire autant parler de lui. mais il entend aller plus loin. Pressentant que sa longue carrière touche à sa fin, Milon voudrait l'achever en beauté. Il a donc prévu de participer à la prochaine Olympia qui doit se dérouler l'été suivant. Une sorte de glorieuse tournée d'adieu. Mais comme je vous le racontais au début de mon récit, le dernier combat de Milon de Crotone ne se déroulera pas comme prévu. La défaite lui reste en travers de la gorge, mais il essaye d'oublier. Après tout, son palmarès est une succession de records inégalés. Et quoi qu'il en soit, Milon est aussi riche que célèbre, et ça, personne ne pourra le lui retirer. Des statues à sa gloire sont érigées aux abords des stades, et des poèmes épiques sont chantés dans toute la Grèce. Désormais, une nouvelle vie commence, et l'avenir lui ouvre grand les bras. Au commencement de ses premières années de retraite sportive, Milon entame à Crotone une vie confortable de notable. Homme politique et éminent membre de la secte pythagoricienne, il lui arrive encore de se rendre au gymnase pour entraîner de jeunes athlètes prometteurs afin de chasser sa nostalgie des stades. Un jour, la ville propose aux citoyens d'honneur une fonction qu'il s'empresse d'accepter. Milon devient ainsi prêtre des rats dans le grand sanctuaire de la haute ville de Crotone. À présent, le colosse quadragénaire drapé de blanc accueille les pèlerins et organise le culte de cette grande déesse de l'Olympe. On raconte qu'une nuit, son époux Zeus, la voyant dormir, posa sur son sein Héraclès. L'enfant s'abreuva alors de ce lait divin d'où il tira son immortalité et dont l'éclaboussure constella tout le ciel, donnant naissance à la voûte étoilée. Cette voie lactée, le colosse Milon l'admire chaque soir, assis sur l'une des marches du péristyle ou adossé à l'une des colonnes du temple. Le voilà désormais plus habitué au silence de la cour pavée du sanctuaire qu'au carré en terre battue des stades de sa jeunesse. Mais ce calme est trompeur, car la colère gronde dans les faubourgs de Crotone sans que cela semble inquiéter le moi du monde, les aristocrates de la cité. En majorité des membres de la confrérie pythagoricienne qui se moquent bien des velléités démocratiques des citoyens du peuple. Un soir de 510 avant notre ère, ayant achevé depuis 4 ans sa carrière, Milon reçoit comme souvent ses amis pythagoriciens pour une réunion. Ils sont une soixantaine en tout et, selon certaines versions, Pythagore est présent lui aussi dans la maison de son gendre. Mais alors même que les invités de Milon viennent de s'attabler, depuis la rue, des hommes enserrent la demeure du champion, en bloquent les accès et y mettent le feu. Les hommes sont pris au piège et tentent par tous les moyens d'échapper aux flammes. En vain. Les plus sveltes parviennent à s'échapper par une mince ouverture, mais tous les autres, à commencer par le puissant Milon, périssent, hélas, dans l'incendie. On ignore si Pythagore est tué ce jour-là, ou quelque temps plus tard, lors de sa fuite désespérée vers Syracuse, en Sicile. Quoi qu'il en soit, Milon de Crotone lui est bel et bien mort, en sa propre maison, dans sa propre cité, qui pourtant l'admirait, croyait-il, à l'égal d'un dieu, mais qui visiblement l'aimait d'un amour bien cruel. Toutefois, la postérité s'obstine à retenir une autre version de la mort de Milon, moins crédible, mais plus cruelle encore. Je me dois de vous la raconter. C'est celle d'un homme qui, lors d'une promenade dans une forêt de Calabre, aperçoit la souche enracinée d'un chêne que des bûcherons ne sont pas parvenus à fendre, préférant abandonner leur ouvrage. L'ancien athlète, cherchant à se prouver que sa force n'a diminué en rien avec l'âge, écarte la fissure à la seule force de ses doigts. Le bois grince, mais ne craque pas, puis se rétracte brutalement sur les mains du champion, pris au piège. Milon tente de s'échapper, mais il n'y parvient pas. Il rugit et s'épuise, comme lors de son dernier combat à Olympie 4 ans plus tôt. Lui, Milon de Crotone, vaincu par un vulgaire tronc d'arbre, il se refuse à y croire. La lutte reprend sans succès. Ses cris de rage se font entendre à des lieux à la ronde. Mais personne ne l'entend, mis à part les loups, qui, tapis dans l'ombre, observent leur proie en attendant le crépuscule. Quand il les voit sortir des fougères, Milon se défend, frappe à l'aveugle à l'aide de ses jambes puissantes. Mais à force d'assauts répétés et d'un subtil esprit d'équipe, les loups finissent par venir à bout du géant isolé. Pour les philosophes des générations suivantes, cette mort, sans doute légendaire, est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Le supplice de cet homme dévoré par des bêtes sauvages porte en elle quelque chose d'une punition divine, celle d'un mortel qui, sûr de sa force, s'est pris pour l'égal d'un dieu et fut piégé à son propre jeu. Piégé par son orgueil que les Grecs appellent hubris et qu'il s'agit de vaincre par les vertus de tempérance et de modération. Deux mots qui ne sont pas, il est vrai, au goût du champion de Crotone qui toute sa vie s'est pris pour un surhomme, refusant toute limite, ivre de gloire et tournant bien souvent le dos à la sagesse. Pourtant, bien que pathétique, la mort de Milon de Crotone l'auréole d'une aura nouvelle qu'aucune couronne olympique n'aurait su lui offrir. Vaincu par sa faiblesse, Milon a révélé sa part d'humanité. Il n'est plus un modèle à imiter, certes, mais devient autre chose, de plus profond et de plus important aux yeux des Grecs. De par son sacrifice, il se transforme en exemple, devenant l'illustration d'une morale humaine. Une chance pour Milon qui rêvait d'être l'égal d'Héraclès et qui peut désormais figurer au tableau d'une part dégénérée de la famille des héros grecs et ainsi poser pour l'éternité aux côtés d'un Achille ou d'un Thésée, d'un Icare ou d'un Prométhée, dans la galerie de ces héros si forts que fragiles, avec leur part d'ombre et dont la gloire est obscurcie par leur folle et inévitable démesure humaine. Grâce à cette mort stupide, largement relayée par les philosophes et les fabulistes des générations suivantes, l'illustre athlète de Crotone entre dans la légende et peut désormais se reposer sur ses nombreux lauriers pour devenir un mythe à part entière. Un mythe qui est parvenu jusqu'à nous et qui continue de résonner encore et de mettre en garde dans la pratique du sport à l'époque moderne. Et en 1924 d'ailleurs, lors des Jeux Olympiques de Paris, Milon de Crotone apparaît dans le plus parfait style art déco sur l'un des quatre timbres de la planche philatélique officielle. Et là encore, étrangement, comme sur les statues et les toiles qui le représentent depuis des siècles, c'est sa mort légendaire qui intéresse l'artiste. À croire que Milon de Crotone est plus intéressant, plus captivante ainsi, à l'approche des loups de la nuit, impuissante au moment de sa chute plutôt qu'au fait de sa gloire. Et comment ne pas songer, comme un souvenir du jour de la première défaite du grand Milon à Olympie face à un jeune inconnu venu le déloger de son trône, au premier combat perdu par Mohamed Ali en 1971 au Madison Square Garden de New York, qui devait mettre fin à sa réputation d'invincibilité et ouvrir devant lui une sombre période de déclin. Car plutôt que de mettre un terme à temps à sa mythique carrière, le légendaire boxeur américain préféra s'obstiner, blessé en surface dans son orgueil, mais plus gravement encore dans les profondeurs de sa chair, souffrant sans le savoir de multiples commotions cérébrales qui devaient s'aggraver dangereusement jusqu'au jour où, 10 ans plus tard, lors de son dernier combat, alourdi et d'une effrayante lenteur, l'idole méconnaissable chute pour de bon. Milon de Crotone fut ainsi parmi les premiers de sa génération à s'obséder pour la victoire, à prôner la culture de la force, l'aventure solitaire plutôt que collective, la survalorisation de la performance et de l'exploit sportif, au péril de sa santé physique et mentale, autant de sacrifices et de débordements ô combien décuplés dans nos stades modernes. Aussi, si la figure de Milon de Crotone a survécu à l'oubli, c'est peut-être parce que la plupart des sportifs d'aujourd'hui portent en eux quelque chose de ces athlètes grecs du 6e siècle avant notre ère. Eux qui, pour la première fois, se mirent à pratiquer le sport avec cette obsession nouvelle de dominer l'autre, ceci allant de pair avec la glorification de soi. Cet état d'esprit incarnait déjà à l'époque, fort lointaine, une forme de dégénérescence aux yeux de certains penseurs grecs qui s'obstinaient à ne pas oublier les racines violentes du sport, à l'inverse de toute une génération d'athlètes et de spectateurs, se jetant corps et âme dans cette aventure nouvelle. Une forme de dérive qui, des siècles et des siècles plus tard, continue parfois encore d'inquiéter, à en croire ces mots, ces vers de George Orwell, pratiqués avec sérieux, le sport n'a rien à voir avec le fair play. Il déborde de jalousie haineuse, de bestialité, du mépris de toute règle, de plaisir sadique et de violence. En d'autres mots, c'est la guerre, les fusils en moins. Une guerre peut-être, mais à laquelle tous les athlètes prennent part avec bonheur. Un bonheur qui fait aussi le nôtre, et cela fait des millénaires que ça dure.